Hélène Krehenbühl.
Une transition en douceur, c'est la promesse du président chinois Xi Jinping à son homologue américain Joe Biden. Lors de leur rencontre officielle hier à Lima, Xi Jinping a appelé à explorer des moyens pour une coexistence pacifique à long terme. Il a déclaré que la Chine était prête à collaborer avec l'administration Trump pour maintenir le dialogue, élargir la coopération et gérer les désaccords. Le super typhon Mani a touché hier terre aux Philippines avec des rafales atteignant 325 km/h et des vagues de 14 mètres de haut. Plus de 650 000 personnes ont dû fuir leur domicile face à cette sixième tempête majeure à frapper le pays en un mois. L'évacuation continue dans le village de Briens, dont les grisons. Les quelques 80 habitants et leurs animaux doivent avoir quitté le village aujourd'hui à la mi-journée. En cause, de nouveaux éboulements sont à craindre, surtout avec des précipitations attendues la semaine prochaine. Le président américain élu Donald Trump a nommé hier le magnat de la fracturation hydraulique Chris Wright, ministre de l'énergie. L'objectif est de réduire les formalités administratives pour stimuler les investissements dans les combustibles fossiles, selon Donald Trump. Le gouvernement britannique a annoncé aujourd'hui une nouvelle aide humanitaire de 113 millions de livres. Elle est destinée à la population du Soudan ravagée par la guerre. Cette aide devrait apporter une assistance humanitaire à plus de 600 000 Soudanais et Soudanaises. L'armée continue de bombarder la bande de Gaza. 23 personnes sont mortes hier, dont des femmes et des enfants. Ces frappes israéliennes ont atteint des maisons et une école abritant des déplacés dans le sud et le nord du territoire palestinien. Les troupes israéliennes poursuivent leur offensive dans le nord de Gaza. La raison, selon l'armée, empêcher le Hamas d'y regrouper ses forces. En natation, le Tessinois Noé Ponti a signé sa meilleure performance hier lors de la deuxième journée des championnats de Suisse en petit bassin dans le canton de Zurich. Il bat le record national du 50 mètres libre en 21 secondes et 18 centièmes. C'est la première fois qu'il bat un record de Suisse en crawl. Des bancs de brouillard sont attendus ce matin sur le plateau. Ailleurs, le temps sera bien ensoleillé. En plaine, il fera minimum 2 degrés sur le plateau, maximum 10 degrés. Demain, lundi, temps en partie ensoleillé avec des passages nuageux depuis le nord-ouest. Et du côté des températures, il fera minimum 5 degrés sur le plateau, maximum 10 degrés. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 4 heures.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Dans le podcast Crime Suisse, je vous raconte des affaires criminelles qui sont arrivées tout près de chez vous. De Plan-les-Ouates à Zurich, de Tavannes à Lausanne, et au-delà de la violence, de la mort et du sang, il y a surtout des histoires qui racontent notre pays. Des histoires qui nous tendent un miroir. Je m'appelle Antoine Drou et je vous donne rendez-vous un vendredi sur deux dans Crime Suisse, un podcast disponible sur Play RTS et sur les autres plateformes d'écoute.
Vos nuits à l'écoute de La Première.
Écosystème. Une émission de Florence Farion.
Les vendeurs de poussettes devront-ils bientôt se reconvertir? Si on en croit les chiffres, le désir d'enfant est en panne. Notre utérus, nos choix, la maternité ne font plus forcément partie de la feuille de route des jeunes couples. Un sondage parle même d'une femme sur trois en âge de devenir mère qui a décidé que ce ne serait pas le cas. On peut faire tant de choses dans sa vie, c'est vrai, si on ne devient pas père ou si on ne devient pas mère. L'évidence d'hier a fait sa place à des questions abyssales d'aujourd'hui. Entre le « j'ai mieux à faire de ma vie », L'avenir du monde, les instabilités diverses et variées, la surpopulation, les raisons sont individuelles ou collectives, mais elles sont bien là dans la boucle de réflexion. Devenir ou ne pas devenir parent, telle est la question. Et elle se pose cette question, et elle en pose des questions, des réponses, bien grâce à notre invité du jour jusqu'à 14h. Bonjour et soyez les bienvenus dans cet écosystème du jour. Et si la question de devenir parent a longtemps été une évidence, eh bien ça ne l'est plus. La famille, ce projet de vie, se heurte à parfois des peurs de l'engagement, un manque d'un soutien à la parentalité, une parentalité à réinventer. Bref, des questions qui fusent. Bonjour Nathalie Ancelin.
Bonjour Florence.
Il y a beaucoup de questions, dites-moi.
Oui, il y a beaucoup de questions. C'est devenu un sujet très cérébralisé, effectivement.
Psychologue spécialiste de la périnatalité, vous exercez pas très loin de Genève, vous êtes venue depuis Annecy et vous avez écrit « Le choix d'être parent » aux éditions d'Uno. L'évidence n'est plus là et vous confiez d'ailleurs que cette évidence, elle a heurté jusqu'à votre vie puisque vous parlez de Jade, votre fille de 20 ans qui vous partage ses doutes sur la maternité et que c'est pas une évidence. Et ça vous a un peu, qu'est-ce qu'on va dire, cueilli, surprise ?
Plutôt cueilli, parce que finalement c'était pas choquant en soi. Effectivement, je commence l'ouvrage en parlant de cette question de Jade, qui est une de nos trois enfants. Nous avons trois enfants. Et Jade avait 20 ans à cette époque et nous discutions de manière très légère, tous ensemble en famille, de plein de choses. Et puis je m'amusais à imaginer quelle grand-mère je serais. Donc je dis, moi, quand je serai grand-mère, est-ce que je sauterai sur les lits ? Et Jade m'interrompt et me dit très spontanément, mais maman, tu ne sais pas, peut-être que tu n'auras pas de petits-enfants. J'ai mis à peu près une seconde de latence à me dire, ah ouais ? Et puis juste après, je me suis dit, oui, en même temps. Et puis après, je me suis dit, évidemment, puisque moi-même, en tant que psychologue en périnatalité, ça faisait 10 ans que je voyais les motifs de consultation évoluer au sein du cabinet. Et je voyais de plus en plus de personnes en âge de procréer se poser des questions. Ai-je le droit ou pas ? Est-ce que je veux ou pas ? Est-ce que je vais le regretter ou pas ? Et donc, du coup, je me dis, oui, effectivement, c'était en plus dans la période du coronavirus où on pensait que le virus était très loin de nous et où on s'est aperçu qu'il était à nos portes. Et là, je me suis dit, en fait, cette question du désir d'enfant, elle est là dans les foyers, dans le mien, juste à côté, partout, en fait. C'est pas que j'imaginais que je n'étais pas concernée, mais je crois que ça a été un principe de réalité, effectivement. Donc c'est ça qui, d'ailleurs, m'a mis en mouvement de partager ce regard et de me dire, il y a vraiment quelque chose à partager, à transmettre, parce qu'il se passe vraiment quelque chose d'important.
Est-ce qu'on peut dire que le monde se divise en trois catégories, Nathalie Lancelin, U1 ? C'est-à-dire qu'il y a celles et ceux qui savent fermement, oui, je veux, celles et ceux qui savent fermement, non, je ne veux pas. Et j'ai envie de dire une troisième catégorie d'entre deux. Et c'est peut-être ceux-là ou celle-ci que vous voyez le plus.
Alors, on peut le regarder comme ça. C'est une vision des choses, effectivement. Peut-être que j'aurais tendance à dire, il y a ceux qui sont encore en mode automatique. C'est-à-dire, à l'époque, d'il y a encore pas si longtemps, on ne se posait pas la question. Ça faisait partie d'un process de vie, d'un schéma de vie, en tout cas, qui concernait les femmes qui devaient devenir mères et qui étaient très conditionnées par ça toute petite. Il est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, on posait la question aux petites filles, combien tu auras d'enfants plus tard, mais on ne la posait pas aux petits garçons. Et donc, effectivement, je pense que ce process qui nous vient de loin, il contribue à des personnes qui continuent à ne pas se poser de questions. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Je pense qu'il y a un mode automatique de quelque chose qui ne se questionne pas pour différentes raisons. Et puis effectivement, il y a ceux qui peuvent savoir, dont je rajouterai peut-être cette quatrième catégorie automatique. Il y a ceux qui disent oui, consciemment, ceux qui disent non consciemment, donc qui renoncent à ce projet pour des raisons personnelles ou éthiques concernant le projet lui-même. Et puis il y a ceux qui doutent, qui font des allers-retours, qui ont envie, plus envie, qui arrêtent la contraception, qui la reprennent, qui sont perturbés par cette question et par toutes les informations qui circulent sur comment va le monde et la société humaine. Donc cette catégorie, oui, elle est grandissante, c'est ce que j'observe en tout cas dans mon cabinet. Oui.
Dans votre essai « Le choix d'être parent » aux éditions d'Uno, c'est-à-dire il y a des cas et il y a toutes sortes de raisons que vous mettez en avant. Il y a les raisons individuelles, les raisons, on va dire, générales d'un monde, de l'état du monde. Et puis vous proposez, on y viendra évidemment à la fin, d'élargir cette forme de parentalité. C'est un livre, je pense, important, utile et précieux à entendre parce que il questionne finalement l'état général du monde, l'état général de nos jeunes, peut-être cette génération Z aussi, parce que c'est eux qui viendront aujourd'hui, qui sont en tête de ligne, on va dire, pour procréer. On les taxe souvent d'ailleurs d'égoïstes, on leur dit qu'ils sont trop autour de leur nombril et c'est corroboré par ce non-désir d'enfant, alors que c'est une association qui ne doit pas aller de soi, hein, Nathalie Lancelin-Huin.
C'est-à-dire que, au contraire, moi, je ne les trouve pas égoïstes. Je les trouve recentrés et conscients. Alors, je ne peux pas parler de tous les jeunes, comme je ne pourrais pas parler de toutes les femmes ou tous les hommes, bien évidemment. Mais à les écouter, à lire des choses qu'ils écrivent, à les écouter chanter, à les voir s'exprimer dans la danse, à les côtoyer de près ou dans le cadre professionnel, à écouter le monde, je ne trouve pas qu'ils soient égoïstes. Je pense qu'ils sont à une époque où ils se posent des questions parce que, heureusement, malheureusement, l'information circule beaucoup via notamment les réseaux sociaux, les algorithmes, etc. On ne va pas revenir sur cette question qu'on sait. Il y a vraiment quelque chose qui fait qu'ils se posent des questions, beaucoup de questions. Ils sont devant une réalité qui est la réalité même de leur vie, hein, avec une planète aux ressources quand même non éternelles. Et donc, ils sont devant quelque chose qui vient les chercher profondément. Ensuite, il y a eu quand même un certain nombre de crises cumulées. Et donc, je crois qu'ils ont ce réalisme de regarder vivre les adultes, de pas nous trouver toujours très cohérent, pour ne pas dire complètement incohérent, et de se sentir assez démuni devant tout ça. Je pense aussi que l'évolution des droits du dernier siècle, notamment par rapport aux femmes, la contraception qui permet de conserver une sexualité plaisir sans risquer, si c'est pas le souhait, d'être enceinte ou même de ne pas vouloir d'assumer, ne pas vouloir d'enfant, a fait évoluer effectivement la question des places de l'homme, de la femme, tout le phénomène MeToo aussi. Il se passait vraiment, si on catalogue, on recense un peu tout ça, beaucoup de choses qui éprouvent leur conscience, qu'ils le veuillent ou pas, en plus d'être très informés, et donc que je trouve qu'ils se recentrent à se poser des questions qui sont finalement pas des mauvaises questions, si ce n'est même quel est le sens d'une vie, quelle est l'orientation que j'ai envie, moi, en tant que jeune, de donner à la mienne. Là que je suis censée être en plein élan, qu'est-ce que je fais de mon élan quand je vois tout ce qui se passe autour? Donc, je sais pas, en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il y ait en tout cas des jeunes plus égoïstes que des adultes plus égoïstes aussi. Je pense qu'il y a une frange dans chaque âge de vie. Je trouve plutôt qu'ils sont plus éprouvés, plus impactés, plus conscients, qu'ils se questionnent et qu'ils se posent des questions. Et que du coup, ils sont devant tout ça. Donc le projet d'enfant ne devient pas la priorité, contrairement à ce qui était le cas dans d'autres générations précédentes où effectivement l'idée c'était de rencontrer quelqu'un, de se marier. La logique voulait qu'on accueille un enfant et puis après qu'on s'oriente dans la vie, dans le monde adulte avec tout plein de choses qui pouvaient faire partie de ça. Donc effectivement tout ça est changé jusqu'à même questionner le schéma de vie, les projets de vie, dont celui d'accueillir un enfant.
Et quand ils franchissent la porte de votre cabinet, j'imagine que la posture que vous adoptez est évidemment extrêmement claire. C'est ni encourager ni décourager l'initiative, quelle qu'elle soit, d'un côté ou d'un autre. Mais comment les aidez-vous à cheminer justement vers une conscience, vers une décision, vers tout ça? Comment on aide?
Ça, c'est évidemment une très bonne question. C'est une question qui est difficile à expliquer. Ça se passe dans une rencontre. Il est évident que pas plus que je n'oriente à conserver une grossesse quand elle est non désirée, parce que c'est un projet trop important, je n'influence pas davantage à avorter, tant c'est une décision aussi fondamentale qui oriente une vie. Et donc accueillir un enfant fait partie aussi, en conscience, de ces orientations qui déterminent un virage de vie, en fait. Donc je les accueille avec cette ouverture, je l'espère, en tout cas j'y veille, d'écouter qui ils sont, d'écouter là où ils doutent, de leur donner un maximum de champ de vision par rapport à ce qu'ils me racontent, si c'est le projet d'enfant. Et en fait, je leur renvoie ce qu'ils me disent, en fait, comme un miroir, et j'essaye de leur faire sentir leur bord à eux. Mmh. J'essaye de voir ce qu'ils mettent dans chacun des plateaux et de voir ce qu'ils sembleraient être le plateau qui l'emporte. Sachant que la chose la plus importante, c'est que quoi qu'il en soit, quelle que soit leur décision, qui n'est pas la mienne mais la leur et qui les engage, qui engage aussi un petit être, donc c'est fondamental d'essayer d'être au plus clair et au plus juste, c'est une responsabilité et de toute façon ils peuvent avoir toutes les questions du monde, il n'y a jamais de bonne réponse. On ne peut pas savoir, mais comme toute chose, comme tout projet de vie, comme toute décision de vie, si une fois qu'on sera dans cette décision-là, si c'est par exemple d'aller vers un projet d'enfant, comment on le vivra, on ne peut pas le savoir avant que d'y être. Donc il y a aussi des règles de vie, et puis même en souhaitant ce projet, on ne sait pas non plus si la vie répond, et si une grossesse peut arriver. Donc en fait, c'est d'être plutôt au fait de tout cela, et puis de regarder aussi qu'est-ce qui les anime profondément, parce qu'il y a de nombreux... Ça sera un peu long à expliquer, mais il y a de nombreuses couches dans le désir d'enfant. Mmh. Il y a des choses qui sont pérenniser des choses de soi, pérenniser des choses du couple, comme vouloir faire plaisir à son conjoint, avoir une fille si on a déjà des garçons. Mmh. Il peut y avoir des choses qui sont liées à la famille, donner un frère ou une sœur, ou donner des petits-enfants aux grands-parents. Il y a des choses qui peuvent être liées à la société, faire comme les autres. Donc il y a plein de couches comme ça qui vont même jusqu'à la planète et qui vont même jusqu'à pérenniser la vie. Alors la vie en soi, mais aussi la vie dehors, hein, c'est l'histoire de la procréation. Donc il y a tout un champ de possibles qu'on partage, où on raconte les enjeux, mais surtout eux me racontent ce qui les habite, leurs questions. Je n'ai pas de bonne réponse, mais je tente de donner des pistes. Et puis ensuite, on est dans quelque chose qui va naviguer au fur et à mesure et qui ne va pas être ni linéaire ni exponentiel, mais qui va faire des allers-retours et qui va les aider à sentir de plus en plus la force d'une décision, quelle qu'elle soit.
Nathalie Lancelin-Huin, vous êtes notre invitée. Le choix d'être parent, le titre de votre essai paru chez Dunod, avec ce sous-titre « Quelle place pour ce projet dans le monde de demain ?» C'est la question à laquelle on va continuer de réfléchir jusqu'à 14h. Premier choix musical, Bastien Arnold nous propose Agnès Bill avec ce titre qui date d'il y a quelques années, parce qu'on en est un peu loin de ça. Il s'appelle Baby Boom. À tout de suite.
J'ai pris une claque et un taxi la première fois que tu m'as plu. J'étais arrivée dans ta vie et j'en suis toujours pas revenue. Mais fallait bien que ça se complique. Alors tu m'as fait ça aux 12 coups de l'horloge biologique. J'ai eu l'envie d'un enfant de moi. T'es fière de toi? Baby, baby, baby boom. Il manquait juste une occasion. Baby, baby, baby boom, c'est l'occasion qui fait lardon. Et c'est parti que du bonheur, de prise de tête en prise de poids. Toi tu t'emballes sur mes rondeurs, de crise de nerfs en crise de faim. On somatise à tour de rôle, un peu beaucoup passionnément. Nous deux c'est rock'n'roll. On cause les yettes, c'est décapant. Mais quel talent, baby, baby, baby boom. Qu'on a l'air con, c'est trop mignon. Baby, baby, baby boom, c'est l'occasion qui fait lardon. Dans les familles, ça devient sauvage, c'est un peu le choc des titans. Y a les mamans qui causent mariage, ça donne envie de faire des parents. Et c'est la guéguerre au prénom, la lutte à mort et sans retour. On dira rien de toute façon. Pour l'instant, on l'appelle au secours, amour, toujours. Baby, baby, baby boom. On pète un plomb, c'est ça qui est bon. Baby, baby, baby boom. C'est l'occasion qui fait lardon. Faut rester zen et philosophe. Tout se passera bien, faut pas stresser. De toute façon, la catastrophe, c'est le baby blues qui est juste après. Mais comme y a toujours une copine qui a une cousine qui s'y connaît, parce qu'elle-même a une voisine. Baby, baby, boom. Dame d'aide en fer et damnation. Baby, 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 boom. C'est l'occasion qui fait lardon. Et puis au bout de 9 mois fermes, voilà le grand jeu du grand jour. Et c'est parti pour le grand chelem. Et c'est parti pour le grand amour. Mieux quand on est trois, pour le meilleur et pour de rire. Jamais plus jamais de sans toi. Dis, on remet ça. Baby, baby, baby boom. Ça c'est de la super production. Baby, baby, baby boom. C'est l'occasion qui fait lardon. Baby, baby, baby boom. Tu m'as dit oui, j'ai pas. baby, baby, boum, c'est l'occasion. Café Lardon.
Psy, philo, sociaux, on questionne notre lien dans Égosystème chaque semaine. Florence Farion.
On va parler des peut-être non-parents, en tout cas de celles et ceux qui se questionnent, savoir si oui ou non un jour ils prendront un enfant par la main. Je me passe de chanter, surtout avec la voix que j'ai. Je suis désolée, d'ailleurs je vous présente mes excuses, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je suis là et surtout pour accueillir notre invitée Nathalie Lancelin, U1, le choix d'être parent aux éditions du Nau, qui donc est autour de cette question et de ces chiffres. Alors, on va pas faire une émission comptable, évidemment, mais c'est vrai que quand on prend les chiffres, notamment les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique en 2022, le taux de fécondité tombé sous 1,4, c'est son plus bas niveau depuis les années 2000. Le nombre de naissances a reculé de 8%. Enfin, un peu partout, cette vague de moins de bébés est en train d'arroser Nathalie Lancelin, U1. Alors, vous en expliquiez, on commençait à en expliquer un petit peu les raisons dans cette première partie. Les chiffres ne disent évidemment pas tout, mais ces chiffres, ils en font pleurer certains, mais ils en font sourire d'autres, puisque parmi les raisons, il y a celle de l'explosion démographique de ces presque 10 milliards d'humains qui vont bientôt peupler la Terre et qui font partie des arguments, d'ailleurs, de ceux qui ne veulent plus d'enfants, veulent pas d'enfants.
Alors ça, c'est toute l'ambivalence du sujet. C'est-à-dire qu'à la fois, et ça, le cerveau a un peu du mal, hein, le mien aussi au début, a un peu de mal à mesurer ça. C'est-à-dire entre le fait que, étant donné que nous serons bientôt 10 milliards avec des ressources finies sur cette planète, sans être pessimiste, mais en étant réaliste, avec des problèmes climatiques et des migrations climatiques qui iront avec, comment on va faire à long terme? Parce que effectivement, on sait que la courbe de la natalité, d'un point de vue mondial, on peut la prendre à l'image d'un paquebot. On ne peut pas l'arrêter et lui faire brutalement, il n'a pas de frein. On ne peut pas le faire tourner à 90 ou 45 degrés comme ça, comme on veut. Il faut s'y prendre à l'avance. Mmh. Donc en fait, il faudrait que de manière mondiale, des mesures, et là ça amène la question des mesures qui elle aussi est compliquée, quelles mesures, depuis quel point de vue, et se mettre d'accord. Il faudrait que ces mesures soient harmonisées en ayant déjà une vision international, mondial, à court, moyen et long terme, et que tout le monde soit d'accord, ce qui n'arrivera pas. Donc on voit finalement arriver des personnes qui se posent la question. On voit déjà des pays prendre des décisions hallucinantes, j'en parle dans l'ouvrage, en fait, pour prendre ces deux grandes nations très peuplées que sont la Chine et l'Inde. La Chine était en faveur de l'enfant unique. Et puis aujourd'hui, voit sa courbe tellement descendre qu'elle ne peut plus tenir son économie. C'est surtout beaucoup une question aussi économique et de grandes nations bien peuplées. Et donc, est déjà en train de penser, via l'intelligence artificielle, à des bébés souris dans un utérus artificiel. Et donc, dit clairement, hein, c'est quelque chose qui a été énoncé par le gouvernement chinois, qu'ils ne s'interdisent pas la possibilité de le généraliser à l'être humain, si possible. Parce qu'effectivement, il va falloir sinon mobiliser beaucoup d'utérus féminins. Et puis effectivement en Inde, où ils s'aperçoivent effectivement aussi que, comment dire, la non-sélection des petites filles, on va le dire comme ça, amène une nation aujourd'hui où en fait les hommes n'ont plus la possibilité d'avoir des femmes, si ce n'est même pour la sexualité plaisir, et certainement plus de mères pour la sexualité procréation et porter les bébés. Donc on a des nations qui réfléchissent déjà à ça, en même temps que d'autres qui réfléchissent à donner éventuellement des primes pour favoriser ce que je dis à la fin du livre, à savoir ce qui s'est passé en France avec une déclaration...
Le réarmement démographique de votre président.
Oui, mais alors là, imaginez le réarmement démographique. Mmh. Ça veut dire des bébés qui seraient là pour réarmer la France. Comment on va arriver à ça? Enfin, c'est des vraies questions. Donc, la surpopulation humaine mondiale amène la question d'une vision, mais amène aussi la question de quel message on passe aux générations en âge de procréer. Et là, on voit que des mesures sont prises au niveau mondial, au niveau national, sur des propositions diverses et variées, mais qui sont, je ne sais pas comment dire, très stupéfiantes, vraiment.
Et c'est postérieur à la fin de l'écriture de votre ouvrage, mais Elisabeth Badinter, la grande essayiste philosophe, oui, vient de sortir un livre, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet essai, qui s'appelle « Messieurs, encore un effort », où elle parle d'une crainte historique, en fait, que les pays sont entre deux feux, c'est-à-dire deux légitimités, à la fois le respect de la liberté des femmes, de leur non-désir d'enfant, et puis les besoins de l'État, très prosaïquement, des retraites, d'une nécessité de croissance, etc. Et Elisabeth Badinter se pose la question dans son dernier essai. C'est quelque chose d'extrêmement actuel, cette question, Nathalie Lancelin-Huin.
Je rejoins cette femme qui en plus a beaucoup d'expérience et qui a beaucoup œuvré pour le féminin. À un moment donné, oui, et j'en parle aussi beaucoup, c'est-à-dire que je suis aussi très marquée par le fait que les fossés se creusent. C'est-à-dire, ils se creusent à tout point de vue, c'est-à-dire même sur la question du désir d'enfant, même entre les femmes, c'est comme s'il fallait être pour ou contre. Comme s'il n'y avait pas la place pour celles qui ne le sentent pas, pour celles qui ne le peuvent pas, pour celles qui ne le veulent pas, pour celles qui le veulent. Ces polarités très, très inverses, elles vont jusqu'à ce que dit Elisabeth Badinter. En tout cas, je la rejoins complètement, je suis en accord avec ça. C'est-à-dire que les États sont vraiment là-dedans. Je parle dans l'ouvrage de « J'ai mal au féminin, au genre féminin et masculin ». C'est vraiment ça. On voit même ce que dit Elisabeth Badinter à l'intérieur de chaque jeune femme, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'elles ont à la fois une envie, je les sens très partagées quand je les écoute, très partagées entre l'envie d'asseoir une liberté durement conquise par la lignée des femmes qui les ont précédées, des droits qu'elles sentent pouvoir être remis en question très rapidement, même dans des pays dits civilisés et ouverts, et en même temps, elles sont prises avec des envies quand même d'amour, des envies de projets intimes parfois aussi. Et donc la peur de regretter de ne pas être mère, parce que au-delà d'être un projet dans le schéma de vie, c'est pas quand même n'importe quel projet. C'est quand même un projet qui, d'un point de vue psycho-émotionnel, amène des degrés d'amour, des degrés de maturité, des degrés de conscience. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut ou qu'il ne faut pas d'ailleurs. Je suis juste en train de dire que le projet d'enfant, accueillir un enfant dans sa vie, l'amener sur le chemin de sa vie, c'est quand même un sacré projet. Donc oui, il correspond pas à tout le monde, mais très bien. Oui, chacun peut assumer le fait de vouloir le vivre, l'expérimenter ou pas. Mais à un moment donné, les jeunes femmes sont partagées entre ces droits qu'elles portent, les femmes qui ont précédé, la non-envie tout à fait d'être comme leur mère qui se sont, entre guillemets, beaucoup sacrifiées, on peut même enlever les guillemets. Et puis il y a cette notion aussi très réaliste là, qui me vient, dont je voulais la partager, ce qu'on appelait la génération sandwich chez nous les femmes, du fait du calcul qu'ont fait certaines personnes, alors ça reste symbolique, mais quand même c'est intéressant, de voir entre le moment où nous sommes autonomes, c'est-à-dire indépendantes avec une autonomie financière, le moment où on va vers la vie, où on est en couple, le moment où on va vers l'enfant, le moment où on gère les enfants en grande partie, le moment où on commence à gérer le départ des enfants, le moment où nos parents vieillissent, le moment où on va arrêter l'activité professionnelle, des personnes ont calculé que nous aurions à peu près peut-être une petite année à nous consacrer, mais probablement beaucoup moins. Et forcément que, comme cette génération est très informée, alors informée, bon, les bonnes et peut-être les moins bonnes et les mauvaises pour le coup, à regarder ces chiffres, à savoir et à entendre les femmes des générations précédentes dire « on s'est battu pour vos droits ». À vous de les conserver, elles sont forcément tiraillées. Et je me souviens aussi, j'en parle aussi dans l'ouvrage, c'est cette jeune femme qui était célibataire, qui avait envie de rencontrer l'amour, qui ne calculait pas du tout, semble-t-il, sa vie, ni qui n'était stratégique dans ses décisions au quotidien pour mener sa vie. Elle avait calculé, à l'âge où elle arrivait, une trentaine d'années, que si elle voulait un enfant, ce dont elle n'était pas certaine, et que ça allait lui prendre tant de temps pour pouvoir tomber enceinte, et qu'il fallait qu'elle soit plutôt tant de temps avec un conjoint qu'elle n'a pas encore rencontré, pour pouvoir évoquer avec lui, en imaginant qu'il serait d'accord d'avoir un enfant, il fallait que tout de suite elle rencontre quelqu'un, alors qu'elle ne voulait pas aller sur les sites de rencontres. Je ne sais pas si vous êtes... si on se rend compte, c'est comme si les jeunes générations avaient des espèces de César compressés comme ça, de projets, où elles devaient tenir compte d'aligner des femmes d'avant, des femmes d'aujourd'hui, des femmes qu'elles veulent être, et encore faut-il qu'elles aient le temps d'y penser, vu que le monde va toujours trop vite et qu'on doit toujours être plus performant. Elles voudraient rencontrer l'amour, mais ne pas s'enfermer dans un couple. Les hommes les regardent comme ça, les jeunes hommes, ils se jaugent les uns les autres. Et donc c'est comme si, au milieu de tout ça, il fallait qu'elles arrivent à y voir clair. Enfin, je ne sais pas, et j'espère l'être, clair, si on se rend compte des dilemmes d'intérieur et des tensions intérieures que peuvent avoir les jeunes générations, nous qui les qualifions d'égoïstes parce qu'ils prennent le temps. Et là encore, je trouve que contrairement à beaucoup de parents que nous avons été, ils ont même, ça me touche beaucoup et souvent, ils ont même la conscience de ce que peut avoir besoin un enfant, peut-être parce qu'il y a eu l'avènement de la psychologie, qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent aussi sur la psychologie de l'enfant, sur la grossesse. Donc ils ont conscience, peut-être même avec leur propre histoire, de ce qu'ils ont pu manquer. Ils avaient des parents, des mères qui travaillaient
beaucoup. Ils se mettent beaucoup la pression. Mais vous savez quoi, je vais vous interrompre un peu maladroitement, mais il faut qu'on écoute un peu de musique et puis on va y revenir. On va ouvrir toutes ces portes-là parce qu'elles sont extrêmement intéressantes et on se rend peu compte à quel point effectivement tout ça pèse aussi dans la réflexion autour du désir d'enfant. Un peu de musique qui adoucit les mœurs. C'est Cat Stevens sur la première, Father and Son, le titre. Et nous retrouverons pour la troisième partie d'Égosystème Nathalie Lancelin-Huin, Le choix d'être parent, aux éditions du No. C'est passionnant. À tout de suite.
Jusqu'à 14h, c'est Égosystème sur RTS la première.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
Égosystème, Florence Farion.
Après le grand Shakespeare qui posait cette question éternelle, être ou ne pas être, eh bien aujourd'hui c'est avoir ou ne pas avoir d'enfant, la question de saut 2024. Mais même si c'est pas 2024, c'est en tout cas depuis quelques années que cette question se pose dans le cabinet de la thérapeute qui nous accompagne aujourd'hui, Nathalie Lancelin-Huin, psychologue spécialiste de la périnatalité. Et on le disait au début de cette émission, vous accueillez effectivement des jeunes femmes et des jeunes gens qui vous disent se doute. Je vous parlais d'égoïsme et vous avez répondu fort justement que se poser toutes ces questions n'était pas forcément chose égoïste. On parlait juste avant d'écouter un peu de musique, des modèles et de la pression. Et on s'aperçoit, j'ai pris les chiffres suisses évidemment, hein, on s'aperçoit que l'âge de la maternité justement, il arrive aussi de plus en plus tard. Ça veut dire que c'est le temps des études, c'est le temps d'un peu une installation, c'est le temps de la rencontre et probablement le temps des questions parce que on essaye toujours de trouver le bon moment. Ça, c'est aussi une question qui revient, ce fameux bon moment pour mettre un enfant en route.
Et elle est d'autant plus pour les femmes, les jeunes femmes, j'ai envie de dire, qu'à un moment donné, il y a cette notion d'horloge biologique qui leur est bien, bien répétée chez le gynécologue et même très, très tôt. C'est ça qui est important à entendre parce que les jeunes hommes ont aussi leur propre pression. Peut-être qu'on en parlera après parce que c'est important. C'est ces jeunes femmes qui bougent autour d'eux, ils ont du mal aussi à se repérer. Et puis, comme ils ont justement ce temps biologique beaucoup plus déployé dans leur vie, bah, effectivement, ils ne se posent pas ce genre de questions au même moment avec la même force. Et donc ça veut dire cumuler par deux, s'ils sont en couple hétérosexué, ça veut dire se poser la question à deux du désir d'enfant. Donc le bon moment, c'est difficile. Là me vient encore un autre exemple qui m'avait beaucoup touchée. C'était une jeune femme qui me contactait par mail et qui me racontait un petit peu la situation en me disant « on est sur le point d'aller chez le notaire parce qu'on a trouvé une maison ». Et finalement, mon conjoint me dit, mais en fait, quand on s'est rencontrés, on n'était pas sûrs tous les deux de vouloir des enfants. Toi, aujourd'hui, tu me dis que tu n'es toujours pas sûre, voire que tu es presque assurée de ne pas en vouloir. Et finalement, à quoi sert d'acheter une maison? Parce que moi, maintenant, je me rends compte que je pourrais vouloir avoir des enfants et donc des pièces de vie pour des enfants à accueillir. Et donc, elle me disait, est-ce que c'est une bonne raison? Ben là, on revient à la question des raisons. Est-ce que c'est une bonne raison, madame, à un moment donné, pour moi, en tout cas, de faire un enfant pour garder mon mari? Est-ce qu'on doit aller acheter cette maison? Je suis perdue. Est-ce que vous pouvez m'aider? Donc, il y a une pression qui est énorme avec une horloge biologique et une pression qui est mise de manière concomitante dans un couple et par la société.
Et je pense aussi à un autre exemple pour montrer un peu la complexité de la décision. Je pense à une jeune femme dont l'IVG médicamenteuse a raté. Et qui du coup, après, se retrouve en se disant « mais non, finalement, j'y vais ». C'est tellement subtil.
C'est tellement subtil et ça s'achemine vraiment dans le temps. Il y a une force qui dit « j'y vais », parce qu'elle ne voulait pas de ce compagnon de vie qui était violent, mais aussi cette situation, on peut prendre en miroir, cette situation d'une jeune femme qui approchait de la quarantaine, qui se retrouve enceinte d'un compagnon et ils sont en train de se quitter. Ils ne prennent pas de précautions, elle se retrouve enceinte sans le vouloir et elle se dit « c'est la dernière chance pour moi ». Donc elle s'est questionnée « je garde pas », avec toute la pression que cet homme qui n'avait pas envie de ce projet se poser. Mais je vois aussi la question un peu plus loin, Florence, quand les jeunes femmes ont décidé qu'elles ne savaient pas trop et qu'elles se retrouvent enceintes en disant « mon Dieu, est-ce que j'ai fait une bêtise ?» Ou quand l'enfant arrive et qu'ils sont dépassés et qu'ils perdent un peu pied ensemble, de fatigue, de charge, de moins bonne répartition de charge entre eux ou de trop de pression de travail, qui se disent mais mon Dieu, les enfants sont là, qu'est-ce qu'on a fait ?» Je parle du regret, on peut parler du regret de ne pas être mère. Une femme avait écrit un ouvrage dessus et c'est des choses qu'on peut voir. Mais je vois, comme je ne voyais pas il y a 10 ans, cette question de parents qui ne sont pas forcément dans une précarité matérielle et financière. Hein.
Mais qui sont écrasés de responsabilités, écrasés de trop en burn-out parental, de plus en plus, et on ose le dire aujourd'hui. C'est ça qui a changé aussi.
Oui, et ça pose la question aussi de, dans cette société d'aujourd'hui telle qu'elle fonctionne, au rythme où elle va, où femmes et hommes sont dans l'extériorité et où il y a un manque d'accompagnement de la grossesse, de l'accueil de l'enfant, de place de crèche, de répartition des charges dans le couple au quotidien, mais aussi de possibilités et de soutien parce qu'il n'y a plus la même biologie d'attachement, la même sécurité émotionnelle, psychique, pour toutes les raisons qu'on a déjà dit et d'autres, qui effectivement se trouvent en difficulté. On retrouve des problèmes pendant la grossesse, on en retrouve en postpartum postnatal, mais on en retrouve au moment de l'éducation. On le retrouve avec des parents qui se séparent. Je peux voir, y compris, par exemple, des couples qui ont 2 enfants et lui dire « j'y arrive pas, je quitte la maison ». Et donc de dire « je prends un appartement, je viendrai voir les enfants » alors qu'il ne souhaite pas se séparer de sa femme. Enfin, il y a vraiment des questions à se poser aussi au niveau de la politique de la parentalité et l'accompagnement d'une parentalité qui est mise à mal quand même avec des difficultés de burn-out parentaux, tout ce que vous citiez. Donc oui, c'est important. Il faudrait presque dessiner ce grand schéma qu'on se raconte sur un mur pour qu'on puisse se rendre compte, puis on mettrait les chiffres des études dont vous parlez en Suisse ou ailleurs, tout autour pour qu'on se représente ce paysage et voir que ça va jusqu'à toucher la question du désir d'enfant et donc même de la pérennisation de notre espèce. Bon, c'est pas ma préoccupation, mais c'est une préoccupation. Mmh. Et qui va donc jusqu'à toucher la source de la vie humaine, en fait. Puisque le désir, en plus la libido, en plus la sexualité, tout ça décline. C'est un paysage absolument... Enfin, je me suis mise en écrivant ce livre devant un paysage que je n'avais pas mesuré avant de commencer.
Il n'y a pas la question de l'argent. J'ai envie de l'ajouter, cette question de l'argent, parce qu'on est en Suisse et qu'on a calculé. Ce coût avait été évalué par une étude à 500 000 francs pour pousser, accompagner un enfant jusqu'à l'âge adulte. Et c'est vrai que la question de l'argent aussi revient souvent parce qu'il y a des études sociologiques notamment qui ont dit que c'était un des motifs au fait de ne pas avoir d'enfant. C'est de se dire, mais serais-je capable de ? Et c'est la question en rebond de l'accompagnement des États.
C'est-à-dire que pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre du soutien, qui est une question qui se pose, hein, savoir quelle est la sécurité matérielle de base, donc financière aussi, mais pas que matérielle. Et quand on voit l'économie mondiale actuelle, on comprend que c'est une vraie préoccupation. Et puis, je redis quand même la question de l'argent, c'est aussi une question de liberté, d'autonomie pour aller la vie, d'autonomie pour ses projets. Donc, je pense que c'est plutôt comme ça que je l'ai regardé sur cette analyse, c'est de voir que les jeunes ont compris qu'il fallait d'abord asseoir une sécurité physique et matérielle pour pouvoir avoir une relative liberté d'exister dans ce monde, et que quand on voit en plus les chiffres, forcément que ça pose question. Mais la question de l'argent, vous l'avez bien compris, hein, puisque je n'ai pas fait cet effort d'imaginer un chiffre. Pour moi, calculer l'empreinte carbone d'un enfant ou le coût d'un enfant, c'est quelque chose qui est erroné, en fait. On isole, c'est comme de calculer la génération sandwich, mais ça nous donne quand même une idée dans ce monde. J'ai envie de vous dire, si on calculait le coût d'un enfant dans un pays, par exemple sur le continent africain, on pourrait voir des enfants qui vont leur vie, qui ont des projets de vie, et je pense que ce chiffre ne serait pas le même. Donc, mais c'est une question très centrale, l'argent. Dans le monde d'aujourd'hui, l'inquiétude est à ça pour des bonnes raisons et d'autres. Donc oui.
C'est aussi un peu dans la boucle de la réflexion des parents, c'est-à-dire pas de place en crèche. En Suisse, on a le record des pays de l'OCDE, des crèches les plus chères. C'est difficile de trouver des places. C'est tout ça aussi qui entre dans leur balance.
Alors là, par contre, je vous rejoins que complètement, c'est que tout coûte cher. Rajouter un être, que ce soit un enfant ou pas, avec, et qui plus est si c'est un enfant, avec tout ce que ça va demander, pour être étalonné avec les autres et faire partie de la société, oui, ça coûte une fortune. Mmh. Vu sous cet angle, si on rajoute cette question que vous nous amenez, on comprend encore, on rajoute ça à la balance, que du coup, l'élan, le désir d'enfant et le questionnement sont immenses. Enfin, je veux dire, on se posait pas, enfin, je ne sais pas si vous êtes mère et si nos auditeurs parmi eux, bien évidemment, il y aura des parents et j'imagine des non-parents, mais on ne se posait pas toutes ces questions. Et donc quelque chose qui était de l'ordre d'un élan et peut-être justement sans trop se poser de questions ou pas assez, ça je laisserai à l'appréciation de chacun, aujourd'hui on se pose trop de questions. Et je ne dis pas qu'il ne faudrait pas s'en poser et accueillir des enfants, je dis juste que ce projet est devenu un casse-tête. Mmh. Un casse-tête.
Si, je ne sais pas vous, mais moi c'était, j'ai des enfants, et moi c'était, oui, ça ira bien. Il y avait quelque chose de « on trouvera toujours des solutions ».
C'est une philosophie de vie. Et d'ailleurs, cette question de l'enfant, elle est intéressante parce qu'avec tout ce cheminement qu'on partage aujourd'hui autour du livre, vraiment, moi, ça m'a amené à beaucoup cheminer aussi sur mon regard sur l'existence. Ce schéma de vie qui nous était prédécoupé, prémâché, un peu imposé comme une ligne droite, une ligne ferroviaire. Et puis, finalement, effectivement, de se dire mais il y a la place pour ça, pour ça. On a été quand même très conditionnés tous ensemble à quelque chose. Et quand on décide d'y aller, parce que vu toutes ces forces adverses, quand la force est plus forte, la force de l'amour, sans romantisme, avec un grand A au sens universel, quand la force de quelque chose, même si on ne sait pas, mais on sent qu'il faut y aller et qu'on a envie que la vie réponde, allons-y et je vous rejoins, ça ira. On trouvera les solutions, évidemment. Si on commence à penser qu'il faut trouver 500 000 francs suisses, je pense que c'est très décourageant, surtout si on n'a pas grand-chose sur son compte.
J'aimerais qu'on garde du temps dans cette dernière partie à venir pour qu'on parle de la parentalité élargie que vous développez dans votre ouvrage, Nathalie Lancelin-Huin. Le choix d'être parent est paru aux éditions Duno. Ce sous-titre, quelle place pour ce projet dans le monde de demain? On va continuer à y répondre après avoir écouté une très jolie chanson sur la maternité de la disparue Terry Moïse, disparue en mai 2013. Ça fait déjà si longtemps et cette chanson c'était « Je serai là ».
et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours sois sûr, tes amis sincères. Pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. Et j'ai découvert qui je suis, tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi.
C'est la dernière partie d'Ego System avec notre invitée Nathalie Lancelin, U1, le choix d'être parent aux éditions Duno. Quelle place pour ce projet dans le monde de demain? C'est la question que nous posons depuis 13 heures. Vous êtes donc psychologue spécialiste en périnatalité et vous ouvrez, je le disais dans cet ouvrage, des possibilités à la fin en parlant de parentalité élargie. On peut peut-être commencer par cette parentalité de toute manière qui bouge, de même que l'amour, le plaisir, les sentiments, tout ça c'est déconstruit, on peut avoir un homme dans son cœur et en même temps être dans un lit avec un autre. Enfin, on a fragmenté tout un peu fait. Tout ça. On est aussi en train de fragmenter un peu notre manière d'être parent. C'est-à-dire, on voit de plus en plus sur le couple, par exemple, des familles homoparentales ou couples de garçons, couples de jeunes femmes qui décident de faire un enfant. Là, ils sont quatre. Vous voyez aussi arriver cette déconstruction et de cette multiplicité de parents possibles autour d'un berceau.
Oui, c'est ça qui m'a beaucoup plu, d'arriver à la fin du livre en voyant comment faire couple, se fragmenter ou en tout cas se nuancer avec des tas de possibilités, comment faire sexualité aussi ou partager sa sexualité, comment faire famille. Et ça m'a amené aussi à une redéfinition de la parentalité, au-delà de la question de quel projet de vie, si ce n'est pas être parent, donc le projet d'un enfant. Mais c'était aussi de redéfinir finalement l'idée de la parentalité. Et de voir que cette parentalité de chair, concrète, physique, pouvait passer par ailleurs. C'est aussi l'adoption qui nous l'apprend, c'est aussi les familles recomposées. On peut être parent d'un enfant de cœur sans le porter dans son ventre. C'est des femmes qui vont être en PMA. Donc en fait, toutes les nouvelles procréations et parentalités ont amené une redéfinition des familles, mais une redéfinition aussi de qu'est-ce que c'est qu'être parent. Et finalement, ça m'a amené en fin d'ouvrage à vraiment, comme un éventail, à éventailler cette question de la parentalité, parentalité de chair, parentalité de cœur, parentalité d'une cause, et de voir qu'en fait, au moment où les champs des possibles s'ouvraient, il y allait avoir d'autres façons d'être parents dans nos vies et de pouvoir être maternel, paternel autrement qu'en accueillant un enfant, qu'en accueillant son propre enfant. Et au-delà d'accueillir un enfant. Et finalement, je trouvais ça intéressant parce que c'était pas une vue de l'esprit, je crois. C'était plutôt quelque chose qui me montrait des possibles ouvertures et c'était important pour moi parce que en même temps dans ce livre j'y vais de raconter cet état des lieux, cette conscience des choses que m'amènent les patients, les jeunes générations. Mais c'était en même temps, d'un coup il y avait un pan de l'univers qui pouvait s'ouvrir et il y avait aussi des possibilités. Elles sont peut-être pas pour demain, elles sont peut-être pour après-demain et ça se murmure déjà dans la manière de s'engager dans la vie des jeunes générations. Il y a déjà d'autres manières d'être maternelle, paternelle, d'être parent à la vie, d'être parent de ce monde, parent de la planète, enfin. Il y a toute une définition que je trouvais, une redéfinition aussi, puisque tout se redéfinit, se fragmente, se redéfinit. Il y avait vraiment aussi ça que j'ai senti dans l'air. Alors, peut-être avec un petit temps d'avance là, mais vraiment, ça commence déjà, je crois.
Mais parce que si on en reste justement à cette parentalité, il y a ce proverbe africain qu'on connaît tous, il faut tout un village pour élever un enfant, et en fait on s'était vraiment enfermé dans une famille nucléaire où la responsabilité portait sur les épaules de deux parents. C'était relativement nouveau finalement, cette responsabilité sur deux paires d'épaules, et en fait on peut imaginer peut-être un mouvement inverse avec un élargissement du cercle autour de l'enfant.
Oui, là vous évoquez la question de la sécurité émotionnelle autour de l'enfant. Donc pour moi c'est un peu l'image de la poupée russe, c'est-à-dire que il faut une société autour de professionnels qui accompagnent des parents pour qu'une mère et un coparent puissent être auprès d'un enfant qui vient de changer de monde puisqu'il passe de l'intra-utérin à l'extra-utérin, qui naît sur cette terre. Et donc effectivement il faut qu'on comprenne cette sécurité comme des matrices qui se superposent. Donc on l'avait avec le village avant, la manière de vivre à la campagne, en famille, dans le monde encore, à certains endroits, où effectivement il y avait tout un village en postpartum, en postnatal de l'enfant, et encore aujourd'hui, si vous allez, par exemple, je parlais de la culture africaine, mais tous les voisins sont des tontons, des tatas, etc. Et donc même si l'enfant se promène et qu'il a pas ses parents à côté, il y a cette notion quand même de voisinage qui porte, en fait. Il y a un étayage qui est autour. On n'a plus ça. Dans nos sociétés dites occidentales, à un moment donné citadines, on court, on connaît à peine ses voisins, les parents sont loin, les grossesses des femmes avec des parents loin ou à l'étranger sont difficiles. Et effectivement, peut-être qu'on peut imaginer à la fois cette parentalité qui s'ouvre autrement, et une parentalité, ça fait partie d'ailleurs, je crois, des réflexions des États pour accompagner les couples, les parents, de repenser ça. Alors, comment on va faire venir les familles autour, mais en même temps, c'est intéressant comme vision, parce qu'il va y avoir certainement aussi cette façon-là, de pouvoir repenser la famille en voyant ce qui était bon dans l'ancien, qui se faisait assez intuitivement, naturellement. Il y a toujours le nouveau s'invente sur la base de l'ancien, et donc c'est l'ancien a aussi des enseignements à nous.
Et qui sera plus forcément question des liens de sang, mais ça peut être des liens choisis justement autour d'un enfant. Mais justement, votre casquette de psy, que dit-elle de cette multiplicité des influences et des références autour d'un enfant? C'est-à-dire que c'est pas, un enfant ne sera pas perdu s'il a plus qu'un papa et une maman, s'il a d'autres référents autour de lui.
En tout cas, tel que je le ressens, tel que je le conçois, tel que je partage, pour moi, non, c'est pas un problème.
Ouais.
On n'est pas meilleur parent ou moins bon parent, ce qui est un jugement moral, si on est un couple d'hommes et de femmes, ou s'il y a quelque chose qui est composé différemment dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est une question d'être suffisamment au clair avec soi, dans son cœur et dans son esprit, sur ce que représente d'accueillir un enfant, et qu'on puisse lui apporter pas une femme, un homme, mais du féminin et du masculin au sens universel. Ça veut dire une force qui réconforte, mais aussi une force qui pousse de l'avant. Donc à partir du moment où il a à la fois des êtres suffisamment clairs, discernants, suffisamment disponibles, avec ses forces nécessaires pour aller la vie, après la question de la constitution de la famille, je crois qu'elle ne se pose pas au niveau nucléaire, elle se pose plutôt au niveau du regard et du jugement social extérieur sur ces familles. Ce qui est encore un autre sujet, c'est-à-dire comment on vit à l'école d'avoir une famille qui est composée un peu différemment de celle dite classique. Donc ça pose d'autres questions, et on n'y est pas encore, mais ça s'ouvre, ça s'ouvre.
Et cette parentalité élargie, elle peut aussi être loin ? Loin des enfants, loin des petits, loin des berceaux, vous évoquez cet investissement associatif qui peut aussi être une manière d'être ensemble et de mettre son énergie à finalement quoi, que va-t-on dire, une création associative, le besoin d'assistance d'un endroit ou d'un autre, que ce soit de la planète ou que ce soit d'autres humains. Ça peut aussi ça être une parentalité élargie, Nathalie Lancelin-Huin.
Oui, vous le dites très justement. Je pense que ça, là encore, c'est le cycle de la vie de la femme qui m'a aidée à le regarder peut-être comme ça. C'est-à-dire de voir cette période de la périménopause et de voir que si effectivement on a été vers une parentalité de chair, dans une maternité, la fin de ce cycle de vie, de la fertilité de la femme, amène à dire, maintenant que cet enfant est au monde, comment je prends soin de ce monde en ayant cette place-là. Et donc d'être dans une créativité qui n'est pas une créativité de chair, mais une créativité existentielle. Une espèce de développement comme ça. Comment on peut s'occuper du monde, en tout cas s'occuper d'une petite partie du monde avec qui on est. Ça m'a parlé de le sentir pendant que j'écrivais le livre et de le voir en fait, déjà fonctionner dans le monde.
En tout cas, votre livre dit beaucoup de choses et permet de comprendre énormément de choses. Nathalie Lancelin-Huin, le choix d'être parent, quelle place pour ce projet dans le monde de demain? La question reste ouverte, mais vous donnez quelques pistes de réflexion, en tout cas fort utiles, je trouve, en 2024, à lire aujourd'hui. Il est paru aux éditions du Nous. Merci encore d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé tout ça dans Écosystème. Une prochaine fois, avec grand plaisir.
Avec plaisir. Au revoir.
I could use a little help now. I've been waiting for quite some time. All the rumors that cross my mind, my doubts don't wait in line. I could use some words now. Everything will turn out fine. I'm trapped in a ball of twine. Please tell me I'm alright. Friday evenings I spent reading about life that I'm not living, and I feel like I am losing time. I could use some fire to finally be louder. But I've never been in love before. I'm too good at closing doors. You and I both know. Friday evenings I spend reading about life that I'm not living, and I feel like I am losing time. I could use job, become a painter.
Les émissions de la journée, en nouvelle diffusion pour accompagner vos nuits. La première, il est 4 heures.